Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, saison 12, épisode 13. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Ça va? En pleine forme?
En pleine forme.
Comme d'habitude, hein,
toujours.
On a un programme, mais alors là, mais chargé de chez chargé aujourd'hui, avec entre autres, vous l'avez vu dans le titre de cette émission, une interview, parce qu'on a eu la chance de rencontrer quatre acteurs du film Pour vivre heureux, un des films qui sort cette semaine au cinéma, un film dont on va vous parler en long et en large juste après avoir passé un extrait de l'interview. Ce sera un tout petit peu plus tard dans l'émission. On va d'abord commencer par le box-office habituel et puis on va enchaîner avec l'interview, mais très concrètement, ça s'est bien passé.
Oui, interview qui sera aussi disponible en entier, parce qu'ici on ne va mettre qu'un extrait, mais qui sera disponible en entier un peu plus tard dans la semaine.
Oui, quelque chose comme vendredi, comme ça vous avez tout le temps d'écouter ça au chaud, tranquille chez vous.
Après avoir vu le film.
Après avoir vu le film, dans le meilleur des cas, bien sûr. Alors, on va parler du coup de Pour vivre heureux, je viens d'en parler. On va parler aussi de Mortal Engines, qui est le fameux film produit entre autres par Peter Jackson. Alors j'ai entendu pas mal de gens dans mon entourage dire que c'était le nouveau film de Peter Jackson. Non, faut pas se tromper, il y a une différence, mais on va voir si la patte du réalisateur est également présente dans ce film-ci, étant donné qu'il était vachement impliqué sur le projet. Troisième film dont on va parler cette semaine, c'est Pupille. Pupille, c'est un film avec notamment Gilles Lelouch, Sandrine Kiberlain, qui est un film qui était également au FIF, au Festival International du Film Francophone de Namur, tout comme d'ailleurs le film Pour vivre heureux, qui avait gagné plusieurs prix là-bas. Astérix, le secret de la potion magique, c'est le film animé de la semaine, le film d'animation. Hein, c'était Alexandre Astier qui a relancé un peu la saga Astérix sous forme de film animé. Et c'est le deuxième, je pense, deuxième volet de son épopée en tant que réalisateur, co-réalisateur.
Tout à fait.
Ensuite, il y a d'autres films. Hein. On va parler un tout petit peu de Netflix. Alors, je sais, c'est pas cinéma, c'est pas sur grand écran. Ça reste quand même un film qui vaut la peine d'être mentionné. C'est le fameux film Mowgli. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce projet, mais c'est Andy Serkis, alias Gollum, alias plein d'autres rôles. Hein. Je crois qu'il a un peu fait tous les rôles de motion capture ces 10 dernières années. notamment le...
King Kong.
Il y avait aussi... Donc,
le singe de...
Capitaine Haddock.
La planète des singes.
Le singe à planète des singes.
J'ai oublié le nom.
César. Donc oui, c'est Mowgli, donc c'est sa version à lui du livre de la jungle, mais qui se concentre plus du coup sur le personnage de Mowgli. C'est une manière un peu différente d'aborder l'histoire que Disney avait fait il y a quelques années avec Jon Favreau, donc là c'est un petit peu différent, on va en parler. Et ensuite, il y a deux autres films, je vous l'avais dit, on a un gros programme, c'est Utøya, le film qui parle de la tuerie sur l'île, si je ne me trompe pas, c'était en Suède.
Tu te trompes.
Je me trompe ?
C'est en Norvège.
En Norvège, bah on y est presque. le drame qui s'est déroulé sur l'île en Norvège où il y avait des dizaines et dizaines d'étudiants ou de scouts et tout, c'est un peu une espèce de retraite, vacances sur une île, qui ont été victimes d'un attentat, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas d'une attaque à main armée. Et puis, dernier film dont on va parler un petit peu, c'est Woman at War, en faisant un peu le débrief des films de la semaine, parce que comme vous avez vu, il y a un gros programme. Je propose qu'on ne perde pas de minute et qu'on rentre directement dans le vif du sujet, à savoir le box-office. Le box-office pour un peu voir comment prendre la température des salles de cinéma en France et en Belgique. Il faut savoir que la semaine passée, il y a plusieurs films qui sont sortis. D'ailleurs, dans le top 10, il y en a 6 nouveaux. Le tout premier, c'est Le Grinch. Forcément, le studio Illumination qui avait fait Moi, moche et méchant sort un nouveau film d'animation qui, du coup, est très attendu en France, avec près de 500 000 entrées, donc le Grinch, qui fait une très bonne entrée. Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald est toujours deuxième en France, avec 450 000 entrées, une chute de 50%, mais il a quand même dépassé les 3 millions d'entrées au total en France, donc la saga Harry Potter n'est pas prête de mourir en France. Je dis Harry Potter, on parle plutôt du Wizarding World, comme ils disent, de l'autre côté de la Manche. Troisième film, c'est Sauver ou Périr, c'était le fameux film avec Pierre Niney, où il interprète un pompier qui va affronter les flammes et avoir du coup une défiguration pratiquement complète suite à un acte de bravoure. Voilà. Un film du coup bien puissant, bien poignant, on en avait parlé. 350 000 entrées pour cette première semaine, qui n'est pas du tout un mauvais résultat. Bohemian Rhapsody continue de faire des ravages en France, il a dépassé les 3 millions d'entrées. Casse-Noisette et les 4 Royaumes, qui est sorti en France la semaine passée, a fait que 250 000 entrées, je dis que parce que ça reste un film Disney, une grosse production, qui est cinquième pour sa première semaine, donc c'est pas terrible, mais D'un côté, les résultats du film n'ont pas été brillants non plus aux États-Unis ni même en Angleterre. C'est un peu raté pour ce coup-là, mais c'est vrai que Disney a fait très peu de marketing. Donc c'est peut-être aussi lié à ça, je ne sais pas. Le Grand Bain qui est toujours là, hein, sixième, dépassé les 4 millions d'entrées pour Le Grand Bain, donc il continue sa bonne voie. Il lui manquerait, à mon avis, un petit million pour arriver à la hauteur des Tuches et compagnie. Donc pas de chance, mais très très beau score pour Gilles Lelouch. Septième film, Robin des Bois, Robin Hood. On en avait parlé, c'est la crème de la crème. Hein. Thibault le conseille, allez le voir, allez acheter en Blu-ray.
Non.
Faites-vous plaisir. Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve, huitième. Et Les Veuves, donc Widows, le film de Steve McQueen, deuxième du nom, qui était sorti la semaine passée aussi, qui a fait un peu plus de 160 000 entrées. Voilà, ça c'était le tour du box-office. Maintenant, comme on l'a dit, on a rencontré du coup le casting du film Pour vivre heureux. On avait Zirak Christopher et Sophia Le Saffre, et notamment aussi d'autres personnes du casting. Et donc on va vous passer un extrait maintenant du film, plus particulièrement un extrait où Zirak et Sophia nous parlent du contexte.
Un extrait de l'interview plutôt.
Oui, pardon, pas du film, mais de l'interview. Un extrait dans lequel ils nous parlent en fait du contexte particulier du film, puisqu'il s'agit en fait d'un mariage arrangé. Alors bien sûr, c'est pas le sujet principal, il y a d'autres sujets dans le film, mais c'est quand même sur un fond de mariage arrangé qu'une histoire d'amour se déroule entre un Pakistanais et une Algérienne qui du coup vont être confrontés à ce mariage arrangé puisque ça ne les arrange pas du tout dans ce cas-ci. Et donc ils vont en parler mieux que moi, je vous laisse les écouter.
On parle du mariage arrangé, oui, mais le film ne tourne pas autour de ce fait-là. Donc c'est plus, ça parle plus du fait culturel en fait. Et de l'intégration de l'autrui, quelqu'un qui n'est pas de la même culture que la nôtre, de loyauté envers la famille et son amour. Enfin, voilà, ça parle de ces faits-là.
Oui, voilà. Oh là, pardon. Désolé. J'ai la voix un peu cassée, j'ai attrapé froid. Vive la Belgique. Non, oui, c'est l'histoire d'Amel et Machir qui vivent secrètement une histoire d'amour. Et comme le disait Zirak, c'est un peu compliqué parce que comme ils sont de cultures différentes, bah, du côté de la famille de Machir, qui est donc d'origine pakistanaise, ça pose problème car je ne suis pas pakistanaise. Et donc, le mariage arrangé, c'est l'élément perturbateur du film, mais c'est pas un film qui tourne autour de ça. C'est vraiment une histoire d'amour et comment est-ce que ça va finir, quoi.
C'était le premier scénario de ma vie que je lisais et que j'allais pouvoir potentiellement décrocher un premier rôle dans ma vie. Et j'étais aussi emballé parce que c'est une histoire qui nous touche beaucoup, enfin qui touche beaucoup de jeunes actuellement. En fait, c'est à Paris par exemple, il y a beaucoup de cultures et un vrai mélange ethnique et un brassage culturel. Donc par exemple, parmi mes amis, dans mes amis, j'ai des amis qui sont confrontés à ce fait-là de pouvoir être amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas de la même culture, religion que eux. Et donc, ils ont du mal à présenter ce problème face à leurs parents, en fait, et à leur expliquer que voilà, j'aimerais pouvoir faire ma vie avec cette personne-là et c'est compliqué. Donc, c'est un fait qui touche beaucoup de gens et qui est réel. Donc, c'est pour ça que ça m'a emballé.
Oui, moi aussi, j'ai la chance d'avoir grandi dans un endroit où il y a beaucoup de mixité, ce qui fait que moi aussi j'ai connu des gens qui ont été confrontés à ce problème de je ne suis pas de la même culture que l'autre, donc c'est compliqué d'être amis, de se fréquenter, de se voir. Mais au-delà de ça, même si je trouve très intéressant et très important d'en parler, au-delà de ça, moi j'ai été vraiment touchée par les personnages, par ce qu'ils traversent et par la belle histoire en fait, d'amour que vivent Machir et Amel. Et aussi par... vraiment, Dimitri et Salima, les réalisateurs, cette façon qu'ils ont dans le film de ne juger personne. De ne juger personne, en fait, dans le film. C'est vraiment, ils montrent juste un fait, enfin voilà, une famille, comment ça se passe au sein de cette famille. Et il n'y a pas de jugement, et c'est ce que je trouve, c'est vraiment ce que je trouve beau dans ce film.
Voilà, c'était Zirak Christopher et Sophia Le Saffre, pardon, qui nous parlaient du film Pour vivre heureux. Alors bon, maintenant on va en parler entre nous. Pour vivre heureux concrètement, ben, je l'ai déjà dit, ils en ont parlé, c'est une histoire d'amour entre un Pakistanais et une Algérienne qui va être vraiment mis à mal. Hein. Déjà elle est secrète cette histoire d'amour, mais en plus elle est mise à mal puisque les familles, surtout la famille du personnage de Machir, veut l'arranger un mariage avec, c'est intrafamilial, hein, vous allez voir, veut l'arranger un mariage qui va du coup mettre en péril leur jeune couple et qui va les forcer sans doute à se dévoiler. Donc voilà, ça c'est un peu tout l'histoire du film. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Thibaut ?
J'ai bien aimé.
T'as bien aimé. Pourquoi t'as bien aimé le film ?
J'aime bien le film parce qu'il parle de choses difficiles, des relations de manière générale, que ce soit des relations familiales, des relations amicales, des relations amoureuses évidemment, avec un fond dramatique assez lourd, qui est donc ce contexte du mariage arrangé. Et ce qui est très bien dans le film, c'est que le duo de réalisateurs, donc Dimitri Linder et Salima Glamin, en parle sans jugement, avec beaucoup de recul et pas de sensiblerie, ce qui est, je trouve, très important, parce que dans ce genre de film dramatique, certains ont parfois tendance à en faire un peu trop, et ça devient un peu difficile de tomber vraiment en empathie pour les personnages, etc., quand c'est le cas. Or, ici, c'est pas du tout ça. On est très vite pris par cette histoire et par les personnages qui sont assez intenses. Et le récit ne fait que monter en intensité. Donc, c'est vraiment très, très prenant. Il y a un petit côté où on attend vraiment de savoir ce qui se passe. On est assez impatient parce que l'issue n'est pas courue d'avance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas une fin attendue. Il y a quelques surprises. Et puis c'est très bien joué par tous les comédiens qui sont pour la plupart non professionnels. C'était leur première expérience. Mais il y a un duo, un fantastique duo, je trouve, formé par Zira Christopher et Sophia Le Saffre, qui fonctionne à merveille. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il apporte une pierre en plus à l'édifice, parce que c'est une thématique, celle des mariages forcés, des mariages arrangés, voire des mariages forcés dans certains cas, qui a été abordée quelques fois au cinéma récemment, notamment dans Nos de Stefan Strecker, ou encore dans The Big Sick, un film américain qui était une comédie écrite et interprétée par Kumail Nanjiani, un humoriste américain assez connu. Et les trois films, je trouve, se complètent assez bien. Donc voilà, pour Vivre Heureux, c'était une très très bonne surprise, dont je n'attendais rien, et j'ai été conquis, voilà.
Moi aussi, vous le savez, c'est pas spécialement mon genre de film à la base, et je m'attendais.
Oh, c'est sûr que dès qu'il n'y a pas Franck Dubosc, c'est plus laborieux pour toi.
On a vu la bande-annonce de All Inclusive dans le podcast, et c'est pour ça qu'on en parle. On a très hâte de voir ce film. Donc c'est pas ma came, comme on dit, à la base, ce genre de film. Mais il faut avouer que j'étais vachement surpris, parce qu'on dépasse le drame entre guillemets classique. On rentre vraiment dans un film où les personnages, comme tu l'as si bien dit, font des choix. Et ces choix-là vont avoir une répercussion immédiate ou pas sur la famille, sur leur entourage, sur les autres personnages qu'on a appris à connaître dans le film. Et ce qui rend la tension et le suspense beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup de films aujourd'hui où on fait en sorte que les personnages sont assez passifs et n'ont pas beaucoup de choix à prendre et ne révèlent pas une partie de leur personnalité de par l'histoire. Et ici, justement, en faisant des choix, en décidant de, je sais pas, d'envoyer un texto, en décidant de ne pas aller en cours ou autre, ils vont en fait se mettre dans une situation. Et nous, en tant que spectateurs, on se dit « Ah, il fallait pas faire ça » ou « Il faudrait mieux faire ça ». Et donc, très vite, on commence un peu à se mettre dans les bottes, entre guillemets, de ces personnages-là pour... On a envie de les conseiller, on a envie de leur dire de faire quelque chose, on a envie d'être des amis et de pouvoir leur parler, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui, du coup, rend la chute, s'il y en a une, plus terrible pour cette histoire. Donc vraiment, moi, j'étais assez conquis par ça. Et ça va du fait que le film est extrêmement bien maîtrisé. Il y a un gros casting, il y a environ 9 à 10 acteurs, il y a les personnages principaux, il y a aussi des personnages secondaires, mais bon, il y a quand même beaucoup de monde. Et ils parviennent en 1h20, comme ça, à aller d'une partie à l'autre sans spécialement confondre les histoires. C'est toujours très clair. Enfin, voilà. Ça se regarde un peu aussi comme un puzzle. C'est assez intéressant.
Ouais, je trouve que l'écriture est vraiment très, très bien faite, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de personnages Alors effectivement, il y en a trois principaux, je vais dire. Trop, oui. Mais il y a 4-5 rôles de parents, au moins 3-4, enfin 3 ados, plus encore au moins 2-3 autres membres de la famille, qui sont plus ou moins importants évidemment en fonction du rôle, mais de manière générale, ils sont quand même tous relativement importants. On les voit tous avec un temps d'écran quand même plutôt grand.
Oui, c'est vrai.
Et on passe facilement de l'un à l'autre sans jamais être perdu, on sait toujours qui est qui. Et surtout, ils ont chaque personnage a son rôle à jouer dans cette histoire, ou dans ces différentes histoires. Parce que, par exemple, le personnage du père de...
C'est Pascal Elbé, si tu veux...
Oui, oui. Voilà, je ne tombe plus sur le nom
du personnage.
Le père
d'Amel.
Voilà, le père d'Amel, merci. Les noms des personnages et moi, c'est une catastrophe.
Oui, il y a beaucoup de personnages, on le disait.
Le personnage d'Amel, qui est donc la jeune fille qui est dans ce couple, il n'est pas directement lié à cette histoire, à l'histoire à laquelle est confrontée sa fille, mais il a un rôle évidemment primordial à jouer dans la vie et le développement de sa fille. Donc, je trouve que même les histoires qui sont parfois parallèles ou pas directement liées en tout cas à l'intrigue principale sont toujours bien amenées et ont une incidence d'une façon ou d'une autre sur les personnages principaux. Donc je trouve que tout ça est très finement écrit et c'est un plaisir à voir.
Mais tout ça fait en sorte que on s'emmerde pas, on est vraiment intéressé par le sujet et on a envie de savoir ce qui va se passer dans la scène suivante. Ce qui fait que Pour vivre heureux est une excellente surprise, honnêtement. Et puis en plus, c'est en grande partie fait chez nous quand même. Hein. On voit Bruxelles un petit peu, c'est sympathique, Kurugem entre autres.
Anderlecht, hein,
principalement. Ouais, ce quartier-là. Donc voilà, très bon film, bonne surprise. Tu lui donnerais combien pour vivre heureux ?
Trois bonnes étoiles.
Trois bonnes étoiles, c'est ce que je m'étais dit également. Donc trois étoiles pour ce film. Premier film pour la plupart des comédiens.
Et pour le réalisateur.
Et pour le réalisateur, donc un grand chapeau. Oui. N'hésitez pas à aller le voir, c'est une belle contre-programmation par rapport à d'autres films qui sortent cette semaine.
Il a le cachet, on lui donne le cachet approuvé par Cinécast.
On lui donne un cachet approuvé par Cinécast. Le deuxième film...
Il pourrait le mettre sur l'affiche quand même. Hein.
C'est un peu tard, ouais. Mais malheureusement.
C'est un bon gros cachet là.
Approuvé par Cinécast. On va leur dire, maintenant magnifique, comme ça ils pourront le mettre sur le poster. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ou tu sais, sur Facebook, tu as une petite image. Puis tu...
Oui, magnifique. Sublime.
Un choc.
Je ne verrai plus le cinéma de la même façon.
Un uppercut.
C'est ça. On attend la suite. Hein.
Je rigole. Qui va s'appeler.
Ils vont cacher.
Voilà.
On avait déjà trouvé ça. C'est ça. Oui, on est en grande forme, comme vous pouvez l'entendre.
On devrait avoir des boutons avec des sons comme ça.
J'aimerais bien qu'on ait une soundboard.
Ouais. Comme ça, je pourrais te faire...
Point.
Ou des... Ouais.
Ouin. Est-ce qu'il y aurait juste Franck Dubos dans la... Ou pas?
Alors, on n'est pas bien, là, à la fraîche.
Alors, on n'entend pas Patrick. C'est ça. Bon. Je parlais de contre-programmation.
Ah, complètement.
Ah oui, parce qu'il y a d'autres choix cette semaine. Et ça, c'est un choix un peu plus bourrin, on va le dire tout de suite. C'est Mortal Engines. Alors, Mortal Engines...
Ouais, bourrin, cela dit.
Ça en a l'air, en tout cas.
Pour vivre heureux est plus dur que Mortal Engines.
Ah, oui, mais je parle pas de bourrin. Enfin, bourrin, pour moi, c'est pas...
Mais oui, tu vois, bourrin. C'est pas du tout... On est bien... Je te comprends tout à fait sur le bourrin, mais je tenais à faire la précision tout de même.
Ah oui, non. C'est un film dur, mais c'est un film... Allez, pas dur dans le mauvais sens du terme, quoi. On n'est pas là pour voir des gens se plaindre pendant une heure et demie. On est là pour vraiment voir une histoire qui va se dérouler avec ses suspens et tout, comme on dit.
Qui est touchante.
Exactement. Donc, Mortal Engines, par contre, ça n'a rien à voir. C'est une grosse production américaine qui est passé un peu sous le radar. Il faut le dire clairement, on n'en a pas beaucoup parlé, à part dans la sphère très geek, il faut le dire.
Oui, voilà.
Mais ce n'est pas un film qui est très marketé, comme par exemple les films qui vont sortir dans quelques semaines, hein, Mary Poppins, etc. Qui sort le 12 décembre en France, qui sort chez nous le 5 décembre en Belgique. Un film de Christian Rivers, avec plein d'acteurs, hein, Hugo Weaving, mais de manière... principal, c'est quand même pas des gens très connus. Hein. Ils ont pas été chercher un casting de A-Star non plus. Et ça raconte un truc alors complètement loufoque, où si j'ai bien compris, il y a eu un événement apocalyptique qui a détruit un peu la Terre, comme on la connaît, n'est-ce pas ?
Oui, jusque-là tu as raison.
Et ils ont décidé de créer des villes mobiles, des villes sur roues.
C'est ça.
Donc c'est une grosse bagnole, c'est Pimp My Ride, mais version ville, quoi. Donc ils construisent des tours et tout sur des voitures, ce qui est assez particulier. Donc des gigantesques voitures, hein, qu'on se le dise. Et l'idée, c'est que bah, les différentes villes de voitures doivent se battre pour survivre. C'est un peu ça que j'ai cru comprendre. Ou en tout cas, ils doivent toujours être en mouvement. Ça, c'est le principe.
C'est un peu ça.
Ok.
Alors, dit comme ça, ça
ah oui, non, il faut,
ça a l'air très kitsch.
Je sais pas que tu as mis 150 millions là-dessus, mais...
Ouais, non. Tu me vends le truc comme ça, je te dis, ouais, non, j'y vais pas. Et pourtant, putain que c'était bon, quoi.
Putain que ça faisait du bien.
Ouais. Je connaissais juste un peu de nom, Mortal Engines. Je savais que c'était une série de bouquins d'ado. J'avais entendu quand même parler du projet parce que c'est une production de Peter Jackson, qui est donc pas... réalisé par Peter Jackson. Il a écrit le film, cela dit. Et le réel, Christian Rivers, il a fait les effets spéciaux de la plupart des films de Peter Jackson. En tout cas, c'est un des employés de
Weta. C'est un poteau.
Hein, la boîte, sa boîte d'effets spéciaux. Et donc, c'est à peu près tout ce que je savais.
Ok. Et je là, crois que c'est un film pratiquement 100% digital, du coup.
Ouais, 100% digital, faut pas déconner, mais...
Il y a un bon studio bleu ou vert, quoi.
Ah oui, clairement. Mais ça, c'est la différence entre Weta Digital et les boîtes d'effets spéciaux qui bossent pour Warner.
Pardon, bah, Warner. Parfois, oui.
C'est que la différence se voit moins. Hein
oui, oui.
Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Bien sûr. Ceux qui sont meilleurs, ils sont en Nouvelle-Zélande, on va pas se mentir. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les nombreuses boîtes d'effets spéciaux à Québec, enfin à Montréal, etc., parce que ce sont, sont les boîtes qui font la plupart des effets spéciaux des films Warner, etc., ouais. C'est pas mauvais, mais disons qu'en général, dans un film Warner, tu vois où était le fond vert, quoi. Et ça crie un peu, ça jure un peu au niveau effets spéciaux, parfois.
Mm-hmm.
Ce qui veut pas dire qu'ils sont mauvais. Soit, dans Mortal Engines, ça se voit pas du tout, enfin pas du tout. Ça se voit quasi pas, les effets numériques. Donc, t'es vraiment plongé à fond dans cet univers post-apocalyptique, avec un petit côté visuellement steampunk, bien que ce soit d'un point de vue sémantique pas steampunk. Parce que le steampunk, c'est plutôt des effets... ça se passe dans le futur, avec des éléments du passé. Ici, on est dans le futur... on est... Ça colle pas vraiment à la définition. Oh là, je me suis embarqué dans un truc, là, je me dis...
Je vais te laisser ramer tout seul. Non mais ça ressemble un peu à Mad Max, on dirait. Un peu cet univers-là, c'est ça que tu voulais dire, un peu particulier,
ouais,
un peu
sombre
avec...
Oui,
tu vois,
oui, clairement. Mais disons que...
Ne soyons pas
fatigués, ne restons pas sur le terme. Non, mais je vais vérifier. Le steampunk, ça se passe justement dans le passé, pardon, c'était ça, c'est logique, avec des éléments du futur. Ici, ça se passe dans le futur, plutôt avec des éléments du passé. Donc c'est complètement l'opposé. Mais visuellement, on retrouve des similitudes avec ce qu'on pourrait appeler avec le steampunk. Désolé pour la petite confusion.
Et on a perdu tous les auditeurs.
Le petit blanc qui a suivi. Non, en fait, ma première explication était bonne et puis je me dis, soit.
Ça arrive.
Et
vu qu'on ne coupe jamais.
Oui. Ben non, on fait ça à l'aise en buvant notre petit jus d'orange pour nous requinquer de toutes ces émotions de l'après-midi.
Exactement.
Donc voilà, d'un point de vue esthétique, il y a un truc très steampunk avec des grosses villes, t'as l'impression que c'est des tortues géantes. Parce qu'il y a Londres, hein, tu vois Londres avec les lions de Trafalgar, il y a la cathédrale de Saint-Paul qui est au-dessus.
Il y a une Londres moyen mobile, quoi, de délirer avec le concept visuel, quoi, ouais, ça c'est clair.
Ah, complètement, et ça c'est cool. Et tout l'univers est assez bien pensé, avec... Enfin, il a de la gueule visuellement.
Mais est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient la route par rapport à l'histoire? Parce que bon, là, on se dit, ok, le concept peut être fun, je vois des voitures qui se bourrent dedans, ok, ça peut être intéressant.
Et ça se passe en 3100, je sais pas combien. Le monde est mort, enfin, il y a eu une guerre nucléaire ou je sais plus quoi. Soit, il y a toutes ces villes mobiles, mais disons que les dirigeants de la ville de Londres ont des projets. Enfin, déjà, c'est une ville qui doit bouffer les autres. Parce qu'il y a énormément de monde qui vit là, donc ils doivent avoir de l'énergie, ils doivent avoir des trucs, des ressources, voilà. Donc ils chassent d'autres petites villes, si tu veux, qui sont faites sur des petits véhicules. Voilà. Tandis que Londres, c'est un truc massif. Mais seulement, voilà, les dirigeants de Londres ont d'autres projets, des projets cachés, que certains vont essayer de contrer, de contrecarrer. Il y a des rebelles, etc. Enfin,
ok,
voilà.
ok.
Donc
il y a vraiment tout un univers.
Bien le genre. Il y a tout un univers très bien écrit, très bien créé. Visuellement, ça a de la gueule. Le casting est assez cool. avec des acteurs que je ne connaissais pas forcément pour la plupart. L'actrice principale, c'est une actrice islandaise, je pense, Hera Hilmar. Il y a Hugo Weaving qui joue un des dirigeants de la ville de Londres, c'est un peu le méchant du film.
Hugo Weaving en méchant ?
Non. Hugo Weaving dans le méchant, mais non, 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 effectivement.
C'est quoi cette histoire ?
C'est le seul du Seigneur des Anneaux, cela dit, j'en ai repéré un. Il y a Mark Hadlow qui a un tout petit rôle ici, qui était un des Hobbits de la trilogie du Hobbit.
Ouais.
Par contre, lequel va savoir. Il y a peu d'acteurs assez connus. Il y a Stephen Lang aussi, mais il joue un robot, donc on ne voit pas la gueule de Stephen Lang,
oui.
Qui jouait le méchant d'Avatar, hein, pour rappel. Donc voilà, il y a quelques acteurs assez sympas, mais vraiment la jeune actrice islandaise Hera Hilmar, elle est impeccable. Je la connaissais pas du tout et j'ai regardé un peu sa filmo. Il y a rien qui me, enfin si, je connais quelques films, mais il y a rien qui m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, je me souviens d'elle là-dedans, tu vois.
Est-ce qu'on va voir ce film pour son histoire, pour ses effets spéciaux ou pour les deux?
Les deux.
L'histoire en vaut la peine aussi.
Ouais, et c'est riche en action. Il y a des séquences très impressionnantes qui sont vraiment cool. Donc non, vraiment, c'était une très bonne surprise que je recommande vivement.
Ben voilà, c'est super. Écoute, et puis bon, on peut se le dire, à mon avis, un film pareil, ça se voit sur grand écran. Hein.
Oui, bien sûr.
Si des villes sur des voitures, oui.
Et qui pourraient engendrer des suites éventuelles.
À mon avis, il y a des idées derrière la tête.
Mais c'est toute l'équipe qui était derrière la Cenzano qui est là. Hein.
Ouais.
C'est le même chef, c'est le même responsable des décors, etc. Enfin, directeur artistique. C'est Peter Jackson qui écrit avec sa femme et leur productrice habituelle, enfin leur co-scénariste habituel, donc Fran Walsh et Philippa Boyens, pardon. C'est vraiment des gars qui sont habitués à bosser ensemble.
Ma petite question, c'est
le résultat est top.
Ma petite question, c'est est-ce que quelqu'un qui n'est pas spécialement geek, vraiment un peu fan de cet univers-là, va pouvoir s'identifier dans ce film?
Je pense.
Ou est-ce qu'on est vraiment public assez niche?
Non, je pense qu'il y a moyen de... Si on est un peu ouvert, il y a moyen de prendre beaucoup de plaisir devant ce film.
Ben voilà, c'était Mortal Engines, gros film, un des premiers gros films du mois de décembre. Il y en aura plein, hein, on en avait parlé dans l'épisode précédent. C'est celui qui entame le mois de décembre. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au box-office. Étant donné que, par exemple, voilà, en France, il sort le 12, aux États-Unis, c'est pareil, je pense. Donc c'est une période très très compliquée. Donc espérons que ça fonctionne pour eux, parce qu'apparemment, c'est pas mauvais. Combien d'étoiles tu donnerais, Thibaut?
Bah, 3.
3 étoiles aussi.
Voilà,
ça va être la constance de l'épisode. 3 étoiles pour Mortal Engines également, qui, je le rappelle, sort du coup ce mercredi 5 décembre. Un peu de news, hein, on va un peu arrêter de parler de film deux minutes pour reparler de film. Pour parler de film tout de suite, on va d'abord parler de série. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, on parle rarement de série, mais dans ce cas-ci, c'est quand même lié à l'univers Star Wars, donc il faut le mentionner. The Mandalorian, c'est comme ça que ça s'appelle, est une série qui va être diffusée sans doute sur le Disney Plus, ou je sais pas quoi.
C'est ce qui est prévu.
Ça s'appelle Disney Plus ou je viens d'inventer?
Je pense que ça s'appelle Disney Plus.
Il y a des chances, oui. Un peu classique, qui est chapeauté, je pense, par Jon Favreau. Attends, c'est pas lui qui réalise, je pense, mais c'est lui qui écrit en partie et tout, donc il fait partie de la prod, ça c'est sûr.
Alors, il avait été annoncé en tant que showrunner il y a quelques mois.
Ouais.
Finalement, ce ne sera pas lui le showrunner, mais il sera toujours producteur et scénariste. Le showrunner, c'est Stephen Schiff qui le sera. Et il avait notamment bossé sur la série The Americans. Apparemment, c'est une bonne série. Je n'ai jamais vu.
Moi non plus.
Mais voilà, un gars qui est quand même un bon parcours. The Mandalorian, en fait, ça va... on en sait un peu plus. On sait que ça va être sur la planète Mandalore, qui est la planète dont sont originaires Boba Fett et son fils. Je pense que c'est son fils, Boba.
Ne me regarde pas pour savoir quels sont les noms des gens
de fait. Hein. Et qui va être centré sur le personnage de Cassian Andor. Tu te souviens de Cassian Andor?
Non.
Non, c'était Diego Luna dans Rogue One.
Mais j'ai vu Rogue One, mais j'ai pas.
Ah non, voilà.
Mais je sais que c'est lui qui.
Mais
qui...
C'était très bien.
Rogue One. Il joue dedans.
Oui.
Donc voilà. Donc, c'est un peu une continuité par rapport à Rogue One ou un spin-off par rapport à Rogue One. Hein.
Oui. Mais donc c'est le personnage de Rebelle qu'on a découvert dans Rogue One et qui sera le. Alors je sais pas s'il sera le personnage principal, je suppose que oui.
Bah oui.
Hein, dégoûté. Mais c'est centré. Mais... Et ça pourrait être sa jeunesse et donc avoir un acteur jeune, etc. etc. Donc voilà. Mais donc voilà, ce sera avec Diego Luna. Il y a aussi Pedro Pascal, l'acteur chilien qu'on a vu entre autres dans Game of Thrones. Gina Carano, Taika Waititi, le réalisateur néo-zélandais. Mais aussi Bryce Dallas Howard ou encore Nick Nolte.
Gros casting, quoi. Hein. Ouais. Disney, elle est pépette, hein, ça on le sait.
Oui. Donc voilà, je pense que c'est censé entrer en production l'an prochain.
J'ai déjà vu en tout cas Jon Favreau sur un plateau de tournage.
Ah oui, carrément.
Avec des décors et tout. Bah non, il était là avec des décors, il y avait Pedro Pascal et tout à côté.
Ah, mais c'est sans doute de la pré-prod. Avec
c'est possible, préparant en tout cas le terrain.
Un peu de préparation.
Mais l'idée, je pense, pour Disney, c'est de lancer en 2020 la plateforme. Donc ils ont.
Voilà, je pense bien que c'est censé être sorti en 2020.
An, donc l'idée, c'est que sortir avec un énorme line-up dès le départ. Ce qui explique aussi, et c'est pour ça qu'on va en parler mais deux secondes, que Netflix a annulé pas mal de séries liées à l'univers Marvel. Mm-hmm. On pense notamment à Daredevil, qui était annulé comme ça à la fin de saison 3, alors que c'était des énormes audiences sur Netflix. Donc ça avait vraiment bien marché.
Luke Cage avait été annulé un peu plus tôt. Ça marchait un peu moins bien. Encore une troisième série.
Ouais, Iron Fist, mais ça marchait pas du tout. Oui. Mais donc ça marchait très bien Daredevil. Et ils ont annulé la série. Alors tout le monde est très surpris, en tout cas tous les fans de la série le sont. Mais en fait, la décision est purement business. Hein, c'est-à-dire que Disney ne veut plus qu'on produise les séries, en tout cas, qui sont chapeautées par sa propriété sur d'autres plateformes. Donc l'idée, c'est de rapatrier Daredevil sur Disney+. Hein.
Bah oui.
Pas con. Donc à mon avis, on risque fort de revoir les personnages de Daredevil. Peut-être pas exactement eux, peut-être qu'ils vont faire un recasting de certains personnages, mais ça ne m'étonnerait pas que Charlie Cox continue sur Disney.
Qui sait ? Suspense.
Suspense. Par contre, il y a d'autres news assez drôles. Hein. Il y a Wes Anderson qui est à Angoulême là pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fout là ?
Ouais. Ça s'appelait The French Dispatch.
The French Dispatch. Avec Jean Dujardin. Non ?
Non. Alors, t'es prêt ?
Dis-moi.
T'accroches ? Bill Murray, Francis McDormand et Tilda Swinton, qu'on voit dans à peu près tous les films de Wes Anderson.
Les Usual Suspects, quoi.
Benicio del Toro.
Oui.
Jeffrey Wright. Timothée Chalamet.
Thibaut Vandeweghe, oui.
Non. Et alors, il y a certaines rumeurs, mais non, non moi, non, malheureusement, non.
T'as tennis, oui.
J'ai tennis. Et ça, c'est les petites rumeurs. Brad Pitt, Nathalie Portman, Léa Seydoux. Voilà. Pas dégueulasse.
Si vous êtes à Angoulême pour l'instant, n'hésitez pas, à mon avis, faire un petit tour à vélo.
Ouais.
Si la ville le permet avec le météo, mais regardez un petit peu ce qui se passe dans vos bars, vos cafés, vos trucs comme ça pour voir s'il y a des tournages en cours et dire coucou un peu à tout ce beau monde. Ouais. Ça, c'est clair.
On ne sait pas trop de quoi ça parle encore. Apparemment, c'est sur des journalistes correspondants américains en France.
Ah, pendant la guerre.
Mais alors quand, je ne sais pas.
Il y a des chances. Voilà. Bah, écoute, on a hâte d'en savoir plus. C'est Wes Anderson. Hein, donc en général.
Voilà. Wes Anderson, ça ne peut être que bien.
En général, ce n'est que bien.
Ou en tout cas pas mauvais.
Et esthétique. Et puis, autre information, le BFI. Alors, c'est quoi cette histoire ? Tu m'as dit ça avant qu'on commence, ça me fait rire.
BFI.
Le BFI, c'est un truc britannique.
British Film Institute.
C'est ça. Ceux qui font les BAFTA, non ? Un truc comme ça. Il y a des chances. Qui ne veulent plus financer les films où les méchants ont des cicatrices.
Ouais.
Merde, alors le Roi Lion, il faut faire comment ?
Ah, ça. Ou bah oui, apparemment, ils trouvent que c'est... que c'est discriminatoire, que ça donne une image négative.
Le méchant ne doit pas toujours avoir une tête de méchant.
Pour les personnes qui ont, pour les personnes qui ont des cicatrices. Et donc, voilà, ils ont décidé de ne plus financer de films dont le méchant a une cicatrice. C'est un peu débile, parce que je pense pas que ça donne une mauvaise image des gens.
Non,
qui
mais
ont
si
des
c'est
cicatrices.
Ça le motif.
Oui, c'est complètement.
Parce qu'alors, un jour, on pourra dire, j'ai pas envie de financer des films où le méchant est blanc, parce que je veux dire, le blanc.
La quote, ou la citation
noire ou autre. C'est...
Oui, non, c'est ridicule. Mais
c'est ridicule.
La citation exacte du directeur général adjoint du BFI, c'est « Le film est un catalyseur de changement et c'est pourquoi nous nous engageons à ne pas avoir de représentation négative à travers les cicatrices ou les différences faciales dans les films que nous finançons. »
Voilà. Donc Elephant Man,
tout, ça devient ridicule.
Mais c'est pas grave.
encore une décision absolument absurde, mais soit. Le cinéma n'est plus à sa près, malheureusement.
Wow. Bon, c'était l'info un peu insolite, l'info combini de cet épisode de Cinécast, comme quoi on n'a plus de cicatrices dans les films financés en Angleterre. Donc si vous êtes en train d'écrire un film et que vous avez envie que l'Angleterre finance un petit peu votre film, ne fût-ce que de 2 pounds. Sachez qu'il faut que votre héros n'ait pas de cicatrice, voilà, c'est simple. Enfin, votre héros, votre anti-héros, n'ait pas de cicatrice, sinon ça ne passera pas. Parlons d'un film qui parle de cicatrice, mais sous un autre angle, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est Pupi. Pupi, c'est un film qu'on a vu au FIF à Namur. je sais que tu as très envie de rire après cette transition qui est, waouh, digne de... je sais pas quoi, moi, même Stéphane Bern ne fait pas des transitions pareilles. Un film qui parle en fait d'adoption et plus particulièrement de mettre mère biologique, adopter aussi. Ça, en fait, c'est vraiment mettre au monde un enfant ou accueillir un enfant. C'est un peu ça la thématique du film. Puisqu'on a différents personnages, on a un personnage qui donne son enfant, l'autre personnage par contre qui va le prendre, entre guillemets, et on voit un peu la passation entre une mère qui porte et la jeune mère qui va venir chercher cet enfant. Donc on suit en fait un enfant, tout simplement, de sa naissance à sa maman, entre guillemets, d'origine, à sa maman d'accueil. C'est plus ou moins ça.
Oui, c'est plus ou moins ça, sauf qu'ici, dans ce cas-ci, la mère, c'est une mère qui décide d'abandonner son enfant.
Oui.
C'est pas une mère qui porte pour quelqu'un d'autre, non, et non. Puis après, voilà, elle le redonne. Ici, c'est vraiment une jeune mère qui a quoi, une vingtaine d'années ou un peu moins.
Qui n'est pas en situation de pouvoir s'occuper de l'enfant.
Mais oui, qui décide d'abandonner son enfant. Et je trouve que toute cette première partie du film est extrêmement bien écrite. Il y a notamment un très très beau monologue d'une personne qui s'occupe justement de récupérer les enfants que certains parents décident d'abandonner, qui explique clairement tout ce qui va se passer à la mère juste après son accouchement. Donc, quelles sont les démarches, quel va être l'accompagnement, qu'est-ce qu'elle a encore comme droit, si elle veut laisser un mot ou pas à cet enfant, mot auquel l'enfant pourrait avoir accès à 18 ans s'il décide de retrouver sa mère. Enfin voilà, c'est un monologue qui m'a vraiment beaucoup touché parce que d'habitude, les explications vraiment très factuelles, c'est des trucs un peu chiants. Et là, en expliquant très clairement certains enjeux à cette mère qui est complètement perdue parce qu'elle a pas envie de cet enfant, je trouve que cette dame fait passer beaucoup d'émotions et rend toute cette séquence à l'hôpital qui va mener à l'abandon définitif de l'enfant, je trouve que c'est un très très beau moment parce que l'enfant n'est pas abandonné tout de suite. Il y a une période de quelques jours où la mère peut se rétracter, etc. Enfin voilà, il y a toute une procédure très précise qui est mise en place et je trouve que ça permet d'inclure les spectateurs dans le film en fait parce que ça leur donne l'opportunité de tout bien comprendre et de se dire ah oui, quand en abandonnant cet enfant, c'est tel droit qu'elle abandonne, enfin il y a plein de choses qui peuvent ou qui pourraient ne pas se passer et donc on comprend bien tout ça et on peut plus facilement se mettre pas dans la place du bébé à naître, mais voilà, dans la place d'une personne qui va être témoin de tout ce cheminement.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est surtout sur la première partie du film, puisque, comme tu le dis, on est avec la maman qui va abandonner son enfant et qui est face à tout ce l'aide sociale, etc., qui va la conseiller, mettre en place toute la transition, etc., avec notamment Gilles Lelouch qui joue un père de famille qui s'occupe parfois des enfants en transition.
Ça, c'est un père d'accueil.
Un père d'accueil pendant genre quelques mois.
Oui, c'est ça. C'est chaque fois pour des durées déterminées assez... Enfin, plus ou moins courtes.
Plus ou moins courtes, donc il s'attache un peu à l'enfant. Puis après, il doit le donner du coup à la personne qui adopte. Et c'est vraiment la transition de cet enfant d'une mère à une autre. Et cette autre mère, c'est Alice, qui a 41 ans et qui, concrètement, ça fait 10 ans qu'elle est en procédure pour adopter un enfant. Donc ça montre à quel point c'est dur d'un point de vue psychologique et d'attente aussi, hein, franchement, d'avoir un enfant quand on adopte. Que c'est pas facile, c'est pas si évident que ça. Et on la voit au début avec son copain avec qui elle veut avoir cet enfant. Et finalement, elle continue à vouloir seule parce qu'elle n'est plus avec cet homme. Et elle continue, et ça fait du coup 10 ans qu'elle attend, c'est ce que je disais. C'est Élodie Boucher qui joue ce rôle-là, qu'on a pas beaucoup l'habitude de voir ces temps-ci, hein. En tout cas, elle est plus discrète.
Oui, c'est vrai qu'on la voit moins. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice au FIF, quand même, pour ce rôle.
Ça m'étonne pas du tout, parce que j'étais vraiment saisi par Élodie Boucher. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue. J'avais même failli oublier son visage. Et puis, d'un coup, je l'ai vu arriver, je dis « Ah, tiens, ça, je le connais. Ah oui, c'est Élodie Boucher. » Et ça m'a vraiment saisi, parce qu'elle joue avec beaucoup de pudeur, beaucoup de timidité et beaucoup de sensibilité. Ce personnage de femme au bord complètement du craquage, nerveux, et qui du coup est face à cet enfant Et ça fait 10 ans qu'elle attend d'avoir un enfant. Et voilà quoi. Donc on voit déjà l'attente que ça peut être un peu difficile pour une mère, ne fût-ce que quand elle est enceinte. c'est déjà compliqué. Alors en plus, si on doit attendre 10 ans sans savoir si on va avoir un enfant un jour et sans savoir exactement, parce que même elle accepte que cet enfant a des problèmes physiques, elle dit à un moment donné, oui, écoutez, c'est pas grave, s'il y a des problèmes de cœur et tout, j'accepte quand même. Donc elle ouvre vraiment son champ des possibles. Et voilà. Donc c'était assez poignant, très très poignant. Une sorte de film. Film récit, parce que la question que certains pourront poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une histoire précise ou autre ? Oui, bien sûr, mais c'est vraiment un film qui va nous accompagner, nous plonger dans cette transition-là, et ni plus ni moins,
j'ai envie de dire. Oui, en fait, c'est un film qui est assez procédurier, d'une certaine façon. Que tu parles d'histoire, oui et non. Oui, il y en a une.
Oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux
dire. Mais c'est un espèce de...
On est témoins, en fait. Hein.
En fait, c'est un espèce de fil rouge qui raconte juste une procédure de la vie, on va dire.
Exactement.
Et on suit juste des personnages qui travaillent dans cet environnement. Le film m'a un peu rappelé Réparer les vivants, qui parlait d'une greffe de cœur. Donc au début du film, on suivait un jeune qui va avoir un accident, et puis son cœur va être greffé plus tard dans le film à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, forcément. Et le film montrait un peu tous les personnages qui étaient ou qui allaient être impliqués dans ce film pour faire un portrait général de ce que c'était une greffe de cœur. Et pourtant, c'était extrêmement émouvant, c'était très très bien filmé et ça fonctionnait admirablement bien, je trouve.
Oui, clairement.
Ici, c'est un peu le même principe sur l'abandon d'un enfant et son adoption par la suite. Donc on découvre les assistants sociaux, ceux qui travaillent dans la petite enfance, la future mère, etc. etc. Et ça, c'est une espèce de fil rouge, comme je disais, qui montre la procédure qui est mise en place quand un enfant est abandonné et puis adopté par la suite. Ça pourrait sembler, dit comme ça, un peu ennuyeux. C'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est assez, assez passionnant, très très prenant. C'est difficile de ne pas être saisi. J'ai deux petits bémols à faire. C'est vraiment des petits bémols. C'est un peu pour chipoter, mais ça m'a un petit peu dérangé, donc ça m'ennuierait de ne pas le dire. D'une part, c'est, je trouve que le personnage d'Alice, donc la mère qui va adopter cet enfant, est introduit un peu tard.
Oui, c'est tard.
Il aurait pu être introduit un petit peu plus tôt, je pense.
Mm-hmm.
Et deuxième petit bémol, c'est il y a des sous-histoires, des sous-intrigues qui viennent un petit peu parasiter l'histoire générale.
Oui.
Je pense notamment à une histoire. C'est même pas une romance, c'est même pas une histoire d'amour.
C'est quelqu'un qui aimerait quelqu'un d'autre.
C'est ça, et c'est absolument pas nécessaire. C'est pas ultra présent dans le film non plus.
Non.
Mais c'est un petit truc. Je me suis dit, ouais, non, ça vraiment, vous pouviez vous abstenir, quoi.
Oui, clairement, ça ne servait pas à grand chose.
Mais voilà,
quelques petites imperfections.
C'est vraiment histoire de chipoter, oui. Parce que ça ne gâche absolument pas le reste du film. Juste une petite pensée sur le moment.
Une autre question d'une actrice qui, pour moi, m'avait vraiment frappé dans le film, mais je ne me rappelle pas de son nom. C'est celle qui joue l'assistante sociale.
Oui. Il y en a deux. Il y a Sandrine Kiberlin, oui. Et l'autre.
Et l'autre. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai vu dans le casting qu'il y avait Miu Miu. C'est pas elle, quand même.
Non.
Si. C'est possible. Soit. Mais en tout cas, c'est une dame assez âgée qui s'occupe d'accompagner les...
Assez âgée, non.
Oui, comme bah, là, quoi, 50 ans.
Fin de quarantaine, c'est... début de cinquantaine.
Non. Qui s'occupe d'accompagner les mères qui vont abandonner leur enfant, donc qui a un rôle assez, assez important, du coup. Voilà, mais...
Tardons c'est pas. C'est Olivia Côte.
Ah, d'accord.
Bah, elle n'est pas si âgée que ça.
Ah oui bon, ok. Qu'est-ce qu'on lui donne, du coup, à Bubi?
Ben, moi, je dirais un bon 3 étoiles
aussi. Bon 3 étoiles aussi. On est original. C'est très original.
Bah, cette semaine,
cette semaine, il y a de la qualité. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis. Passons tout de suite à quelque chose de plus léger. Hein, après parler d'enfants, après parler aussi de mariages arrangés, etc. Et puis de villes qui se doivent faire la guerre sur des bagnoles. On parle maintenant d'Astérix. Astérix, le secret de la potion magique, c'est donc la suite de l'animé. Je crois que c'était au Domaine des Dieux ou un truc comme ça, le précédent.
C'était le Domaine des Dieux,
oui. Ouais. Qui sort cette semaine au cinéma par Alexandre Astier et Louis Clichy, avec notamment Christian Clavier dans le rôle d'Astérix de nouveau, enfin qui fait la voix, hein, on tient à préciser. Et là, bah, vous avez bien compris, hein, il va être question de potions magiques, de problèmes de druides, etc. Et ils vont devoir chercher un nouveau druide talentueux qui va pouvoir transmettre le secret de la potion magique. Ça, c'est l'histoire du film. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus ? Non, pas pour l'histoire, mais par contre, pour la qualité de cette histoire-là, est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que c'est toujours aussi bon que le premier ? Thibaut ?
Ben moi, j'avais été un peu déçu par le premier.
Ah oui ?
Parce que Le Domaine des Dieux est un album que j'aime beaucoup. Et je trouvais qu'en film, alors c'était pas mauvais hein, le film, mais je trouvais que c'était une histoire trop inconsistante que pour être adaptée en long métrage. Du coup, j'ai pas été très convaincu. Il y avait des moments que je trouvais un peu bizarres ou inutiles. Donc c'était pas une mauvaise adaptation pour autant, mais je pense que l'épisode choisi de base était peut-être pas le meilleur pour en faire un long métrage. Et ici, en fait, ils ont écrit une histoire originale. C'est pas du tout adapté d'un album déjà écrit. Et donc, forcément, ils ont un peu plus de liberté pour étoffer et pour rendre ça un peu plus digeste pour un long métrage. En tout cas, plus riche.
Il n'y a pas d'adaptation entre BD, scénario de film. Voilà, non, ils peuvent partir sur une nouvelle base. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et c'est un excellent choix parce que l'histoire est très sympathique. Il n'est pas... ça reste un scénario Astérix, BD.
Quoi, ouais, c'est ça.
Un scénario, oui, c'est ça, ça reste un Astérix. Donc l'histoire est assez simple. Tu viens de la résumer, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Il y aura un méchant qui est un druide qui est un peu exclu du conseil des druides, enfin qui a été exclu du conseil des druides il y a des années et qui fait son retour en apprenant que Panoramix cherche un successeur et qui va forcément chercher à avoir la recette de la potion magique. Quoi. Du coup, l'histoire se laisse suivre vraiment super bien.
Mm-hmm.
Les personnages sont toujours aussi sympathiques. L'animation est très bien faite. Je pense que ça peut plaire aux petits comme aux plus âgés. La fin est un petit peu plus... Allez, un petit peu what the fuck, il y a un petit côté Transformers comme ça qui m'a gêné. J'en dis pas plus.
Pardon.
Mais ouais, dit comme ça semble un peu bizarre.
J'ai un lever de soleil en fond avec Astérix qui enlève des lunettes de soleil comme ça, tu vois.
Non.
Michael
non,
Bay.
Non. Vraiment plus Transformers que ça.
D'accord.
Soit, t'as l'impression que c'est Pacific Rim en fait.
Ah ok, d'accord.
Ouais.
Donc la potion magique est vraiment très efficace, quoi.
Pas comme ça, mais voilà. Bref, je me comprends, et si vous écoutez ce podcast après avoir vu le film, je pense que vous comprendrez aussi à quoi je fais allusion. Mais bon, alors, c'est juste que cette fin est un peu bizarre, voire pas des plus nécessaires comme ça, mais elle a un petit côté spectacle sympathique qui plaira certainement aux enfants, donc c'est pas gênant outre mesure.
En gros, c'est le troisième acte où ça pète un peu, quoi.
Ça pète un peu.
Il faut sauver la ville, quoi.
Oui.
Oui. Comme dans tous les films.
Oui, plus ou moins. C'est pas exact. Oui, plus ou moins. Mm-hmm. Soit. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est très sympathique. C'est bien foutu. C'est plus consistant et du coup, ça fonctionne mieux que Le Domaine des Dieux, je trouve.
Et les blagues sonnent bien ?
Oui, c'est toujours sympa. Il n'y a pas de. Ils en font pas trop. Ils en font pas des caisses. Donc.
Tout public, toujours.
Donc ça reste du Astérix pur jus. Et voilà, j'ai été client.
Oui, je pense qu'il faut pas en dire beaucoup plus sur ce film-là. Vous savez de quoi il s'agit. C'est la bonne alternative familiale de la semaine, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu lui donnes ? 3 étoiles ?
Bon, oui, allez.
Ou 2 pour le côté Transformers.
Ça pourrait être 2. Allez, disons 2. Mais...
Disons 2. Mais bon, plus. Pour le cinéma d'animation en France, il n'y en a pas beaucoup.
Disons qu'il faudrait vraiment une super bonne histoire sans le côté Astérix post-Goscinny. Post-Uderzo, pardon. Non, post-Guffini. Post-Goscinny. Tu vois, genre, c'était quoi ? Quand le ciel est tombé sur la tête, là, avec les extraterrestres et Superman, c'était un peu too much. Mais disons qu'avec la fin du film, c'est un tout petit peu de ça. Pas aussi what the fuck quand même, mais il y a un petit peu de ça. Tu te dis, bon,
ouais, voilà. Ils avaient envie un peu de sortir de l'univers d'Astérix.
Oui. Enfin, non, parce qu'ils y restent complètement. Hein, mais voilà, il y a un petit côté... qui n'était peut-être pas nécessaire, absolument.
Parlons encore d'une adaptation. Dans ce cas-ci, C'est une adaptation qui est assez controversée puisqu'on a eu récemment le livre de la jungle de Jon Favreau, on parlait de lui il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et Andy Serkis, donc l'homme derrière Gollum et plein d'autres rôles dont on parlait, a réussi à obtenir les droits pour faire en tout cas une histoire du livre de la jungle, une adaptation à lui, avec ses moyens, hein, forcément on sait que c'est le roi de la motion capture, donc on suppose bien qu'il a, il a continué à faire ça, et dans ce cas-ci, bah, c'est un film pratiquement que en motion capture, puisqu'on parle de Mowgli. Et c'est un film qui va exactement comme le livre de la jungle, se concentrer sur le fait qu'il évolue autour d'un ours, d'une panthère, etc. Donc comme le livre de la jungle. Mais on va aussi s'attaquer un peu aux origines de ce personnage-là, ses origines humaines, sa confrontation avec son peuple, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre dans le film. Voilà. Alors est-ce qu'il faut en parler plus ? Je ne sais pas, parce que de nouveau, c'est un film qu'on a l'impression qu'on connaît déjà, hein, le principe. Est-ce qu'il y a une surprise justement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on... Est-ce qu'il parvient un peu à nous surprendre ou est-ce qu'on se dit bon, ben, c'est une nouvelle manière de présenter la jungle, merci Andy Serkis et à demain.
C'est... Alors le film, avant de commencer, sort ce vendredi, donc oui. Le 7 décembre sur Netflix.
Dans votre salon.
Et pas en salle, hein, pour rappel. Non. C'est une adaptation assez... pas classique. Mais je la trouve un peu plus sombre, je la trouve plus... avec plus d'aspérité. C'est un conte initiatique, vraiment. On découvre comment Mowgli est arrivé là où il en était, comment il est devenu un membre de la meute, comment il gère sa différence avec les jeunes loups, parce qu'il voit bien qu'il ne ressemble pas aux loups. Mais on lui a toujours dit qu'il était un loup, donc voilà. Et comment il va se faire épauler par certains des personnages. Et puis un jour, évidemment, il y aura la confrontation avec les hommes, mais c'est pas du tout le moment le plus... Enfin si, c'est un moment important, bien sûr. Mais il y a aussi une autre confrontation qui est très importante dans le film, c'est celle avec Shere Khan, le tigre, hein, pour rappel. Qui veut devenir le roi de la jungle.
Exact.
Qui veut virer Akela, qui est donc le chef de la meute. Donc c'est plus sombre, vraiment. Il y a des comment dire, les animaux ressemblent à des animaux, mais ils sont tous en motion capture. Donc ils sont tous numériques. Je trouve, alors parfois, je dis... Bon, ça peut gêner un petit peu, mais dans l'ensemble, je trouve que ça fonctionne assez bien. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il manque peut-être l'une ou l'autre scène vraiment spectaculaire qui donne un côté épique au film. On est dans l'adaptation, dans le film de divertissement très plaisant, bien, bien foutu, mais qui manque peut-être de...
De vista, quoi.
Ouais, alors je vais pas dire qu'il manque d'ambition, mais voilà, il aurait gagné à avoir un peu plus de côté un peu plus spectaculaire. Il y a une scène qui est vraiment cool, c'est une espèce de course que les loups doivent, enfin un parcours que les loups doivent faire afin d'être vraiment acceptés dans la meute.
Okay.
Donc qui leur donne le droit d'aller chasser, etc. Et donc en fait, les loups doivent franchir une ligne. Avec tout un parcours dans la jungle, en étant poursuivi par Bagheera, qui est la panthère, pour rappel.
Oui.
Et s'ils se font attraper par Bagheera, non, ils ne pourront pas faire partie intégrante de la meute. Et cette scène, elle est assez cool, parce que forcément, Mowgli, il ne court pas comme les loups. Et ça, c'est assez sympa. Il y a pas mal de scènes vraiment chouettes aussi avec Baloo, avec Bagheera, etc. Où, tu vois, déjà, ils ont des vraies gueules. Baloo, c'est pas le gentil nounours du dessin animé.
C'est un ours, quoi.
C'est un ours. Avec un peu des cicatrices, avec une sale gueule. C'est un ours.
Oui.
Et donc ça, c'est chouette. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'était assez sympa. C'était pas aussi mauvais que ce que je craignais. Parce que au début, j'étais assez excité par le projet. Je me dis Andy Serkis, bon, machin. Il y a plein de bons côtés au film. Et puis tu vois que Warner revend le film à Netflix. Et là, tu te dis...
Ouais.
Le film avait a priori un potentiel pour être exploité en salle, voire en 3D, etc. Enfin, il y a vraiment moyen de faire
des trucs cool. Oui, il y a Benedict Cumberbatch au voice-over.
Et non. Et donc, je me dis, ça pue quand même. Et même si, voilà, il a quelques défauts dont j'ai parlé, il est absolument pas mauvais. Donc ça aurait pu donner un succès en salle, je pense. Je le trouve en tout cas meilleur que le Livre de la Jungle de Jon Favreau, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est dommage.
Mais qu'on se le dise, il n'y a pas de musique, y a pas de... on n'est pas du tout
dans... Non, il n'y a pas...
Il en faut peu
ouais, non, il n'y a absolument pas de chanson. Il n'y en avait pas non plus dans le film de Favreau, je pense. À part si, il y avait celle des singes.
Il y en avait une où Balou était dans l'eau, là, couché dans l'eau et il chantait un peu, là. Il chantonnait.
Ah oui. Ils avaient remis un petit peu les chansons quand même. Ouais.
Un petit peu.
Ici pas, il y a absolument pas de chansons.
Ouais.
Mais voilà, il y a plein de, il y a un gros casting hein, quand même pour rappel. Alors déjà, il y a le petit garçon qui joue Mowgli, c'est Rohan Chand. Il a joué dans quelques films, dont ce truc sur la cuisine qui était épouvantable, Les Recettes du Bonheur, entre autres. Il a joué dans Du Sang et des Larmes dans Homeland. Voilà.
Avec ça.
Quelques trucs sympas. Mais au niveau du casting des voix, il y a Andy Serkis qui est donc le réalisateur qui fait la voix de Baloo. Il y a Benedict Cumberbatch qui fait la voix de, à ton avis,
Sharkan.
Ben oui, Sharkan. Il y a Christian Bale qui fait Bagheera. Kate Blanchett qui fait Ka,
le serpent. Un gros casting quand même.
Ouais, ouais. Il y a Tom Hollander aussi qui fait Tabaki. Naomi Harris. Enfin voilà. Il y a Matthew Rhys qui lui a un rôle. Il fait un rôle de chasseur. Qui va faire des petites rencontres sympathiques avec un éléphant. Donc voilà, il y a de chouettes choses.
C'est la patrouille des éléphants.
Il n'y a pas la chanson non plus.
Dommage, j'aime celle-là.
Ouais, c'est celle que je préfère.
Bon, ben voilà, écoute. Mowgli sur Netflix ce vendredi, tu lui donnes combien ?
Deux.
Deux étoiles, ça se regarde, quoi. Est-ce nécessaire ?
Non. Plus que l'autre.
Mais un peu plus que l'autre quand même. Donc voilà, au moins il y a une petite alternative. Je propose qu'on parcourt peut-être les films qui sortent cette semaine et qu'on parle de deux films pendant qu'on parcourt ces films-là, puisqu'on a déjà parlé de beaucoup de films.
Oui.
je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour.
Oui, je ne dirais qu'un mot rapide sur les
prochains films. Oui, il y a des films aussi que tu as vus en plus, donc voilà, on fait un peu un best-of.
Ouais.
On reparcourt du coup les films qui sortent ce mercredi 5 décembre. Le premier film, c'est « Ma mère est folle » de Diane Curis avec Fanny Ardant, entre autres, et Vianney. Est-ce que tu l'as vu ?
Oui, c'est insupportable. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce film. Vianney, il fait acte de présence. Fanny Ardant, elle n'est pas bien. Il y a Ariel Dombal qui fait Ariel Dombal, alors que d'habitude, elle m'insupporte. À la limite, c'est le truc qui m'a fait le plus fait rire dans le film. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Ça ne fonctionne absolument pas. Alors, il y a une scène qui est insupportable où, en fait... Donc Fanny Ardant, elle a des problèmes d'argent. Son but, c'est d'aller acheter de la drogue aux Pays-Bas et puis de la revendre. Elle va acheter de la beuh. Son fils vit aux Pays-Bas. Elle veut un peu se rabibocher avec lui aussi, enfin soit. Et donc forcément, au retour, il traverse la Belgique et il tombe sur des flics. Enfin, ils emboutissent un sanglier. Et il y a les flics qui se pointent. Il y en a beaucoup en Belgique. Bah, ouais, les flics se pointent. Et alors les flics, c'est une caricature de la Belgique. Tu te demandes comment c'est encore possible de faire ça en 2018, quoi. C'est les flics qui disent « Allez, non, peut-être !» parle avec un accent comme ça. Il n'y a personne qui parle avec un accent comme ça. Et puis, ils ont l'air débiles comme pas possible.
On va se prendre une bière.
Et ouais, enfin, putain, quoi. Merde.
T'as pris tes clics et tes claques ou...
Non, ouais. Zéro pointé.
J'ai pris mes clics et mes claques.
Zéro pointé. En tout cas, dans ce film, je me demandais où était la réalisatrice, mais elle n'était pas là.
Où est Diane ?
Comme dirait Vianney.
J'ai... Oui. Hein ? T'es où ? Pas là. Mais c'est pour ça que le mec qui est là, c'est pareil. Et par contre, il s'appelle Vianney Bureau. Putain.
Ouais.
Mais pourquoi tu t'appelles pas juste Vianney, alors ? Ce sera plus facile.
Ils ont mis Vianney sur l'affiche.
Je sais. Bah oui, Vianney Bureau. Ouais. Attends. Bon. C'était le premier film de la semaine.
Voilà. N'allez pas le voir. Hein, de chaque... Vous n'aviez pas compris.
De chaque instant, un documentaire français signé Nicolas Philibert.
Pas vu.
Tu l'as vu ? Non, pas vu. Pupille, on vient d'en parler, 3 étoiles, un film sur la transition entre un enfant qui va être mis à abandonner et puis adopté par une femme de 41 ans. Barguignon, c'est un documentaire français de Clément
Cogitore. Pas vu.
Pas vu.
Il paraît que c'est très bien.
Ben oui. Astérix, le secret de la potion magique, 3 et 2. On avait dit 2 ou 3 ?
Ouais, 2.
2,5. 2 de Alexandre Astier qui continue du coup sur sa bonne lancée d'adaptation. Qui font le boulot, à mon avis, ce ne sera pas fini.
Oui, oui.
Ensuite, il y a First Kiss, un film c'est quelle origine, ça ? Néerlandais, je suppose.
Je ne sais pas, ouais. flamand ou hollandais.
De Roy Portmans avec Leontine Borsato.
Ça va sortir au Kinépolis de Bruxelles et puis c'est tout.
Stijn Fransen, Caroline De Bruyne, à mon avis, c'est du... dans le nord du pays. Tu sais de quoi ça parle tu...
Non. J'ai une tête à regarder les films flamands.
Mais en tout cas, le poster a l'air un peu punchy.
Ouais,
un
non, mais tu sais, il y a des films que je ne regarde pas, que je n'irai jamais voir. C'est le style Sinterklaas, machin, FC de Kampioenen, hein, et voilà.
Tu as tort. Utøya, 22 juillet, ça on en avait un tout petit peu parlé il y a un petit peu de temps, parce que tu l'avais vu, je pense.
Je l'ai vu à Gand, mais je ne sais plus si on en a parlé.
Ah, rapidement, je pense. Un film de Eric Pope.
Oui.
Pope.
Bah, c'est donc sur la tuerie sur l'île d'Utøya, où des enfants qui étaient en camp sur cette île, donc un camp plutôt à tendance politique, parce que c'était un camp du parti travailliste, ou
je ne sais pas quoi. Jeune partisan, c'est ça. Oui.
C'est filmé en un plan séquence d'une heure et demie, sans interruption. Enfin, c'est 88 minutes exactement. C'est la durée réelle de l'attaque. Oui. On entend le nombre estimé de balles qui ont été tirées aussi. Et on suit donc un personnage pendant toute cette durée-là. C'est assez poignant, assez prenant, mais ça m'a un peu saoulé un moment. Parce que tu as compris le principe, tu sais comment ça va se terminer à peu près. Et c'est dommage parce que le sujet est évidemment très fort. Très important aussi c'est traité assez de manière assez intéressante et intelligente. Je trouve que au final ça fait un peu tape à l'œil quand même.
C'est pas un concept presque d'horreur ça en fait.
Bah ça pourrait, ça pourrait.
T'imagines le Bataclan s'ils font ça.
Ouais non ça pourrait.
Genre 86 minutes dans le Bataclan, c'est quand même terrible. Ouais, enfin ça passerait pas bien je pense.
Non mais je pense que ça durerait moins longtemps. Mais
oui mais voilà, mais 23 minutes dans le Bataclan mais, ça passerait pas bien.
Ouais non ça serait assez insoutenable. Mm-hmm. Et ici évidemment c'est ça prend aux tripes, mais je trouve qu'à un moment l'effet se délicte.
Oui 1h30 de ça.
Oui ça fonctionne plus trop donc bon. Oui. C'est dommage parce qu'il y a clairement du savoir-faire, tout ce qui est chorégraphie, etc. Forcément, c'est un travail de fou, quoi. Parce qu'ils font, ils vont à gauche, à droite, ils traversent l'île, ils se cachent, ils courent, enfin voilà.
Ouais.
Donc c'est assez remarquable.
C'est un peu comme une pièce de théâtre filmée, du coup, parce qu'ils doivent tout répéter, ouais. Les mouvements et tout.
Ouais. Sauf qu'ils ont un terrain de jeu de plusieurs centaines ou dizaines de
mètres carrés.
De mètres carrés.
Dizaines, dizaines,
non plus. Non, mais j'allais dire de kilomètres carrés, mais peut-être pas de kilomètres carrés. Non, je comprends qu'il y a quand même un grand espace de jeu, donc voilà.
C'est affreux de dire c'est un grand espace de jeu dans un truc pareil.
Oui, mais bon, on s'entend.
Vous avez compris. Non, vous avez compris. Donc c'est un film, voilà, qui... on a compris assez vite où ça va en venir.
Je dirais une étoile quand même.
Une étoile. Les confins du monde, un film de Guillaume Niclou avec Gaspard Ulliel, Guillaume Guix et Gérard Depardieu, entre autres. Tu sais de quoi ça parle, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu à Cannes et j'en ai peu de souvenirs. Ça ne m'avait pas enthousiasmé. C'était un film qui se passait donc en Indochine après... oui, je crois que je l'ai vu, une séance du matin. Qui se passait en Indochine après la Seconde Guerre mondiale. Où on suit l'histoire de soldats là-bas. Qui doit faire face à un grand, un leader ennemi assez impitoyable, donc c'est pas facile. C'est assez rude, il y a quand même des scènes un peu. Des blessures qui sont très fortes, qui sont graphiques. Voilà, mais non, vraiment, ça m'avait pas enthousiasmé, donc je lui donnerais même pas une note parce que mes souvenirs ne sont plus clairs. Okay. Donc voilà, mais vraiment ça m'avait pas enthousiasmé outre mesure.
Woman at War, ça c'est un film finlandais si je me trompe pas.
Islandais.
Je vais me tromper, tu vois, c'est un classique à Guillaume. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Tu l'as vu par contre aussi, tu peux en dire un mot
parce que c'est sûr. Une femme qui se rebelle pour je ne sais plus quelle cause, je t'avoue, mais qui du coup. Coupe les lignes à haute tension, ce genre de truc. Elle sème un peu le chaos en Islande. C'est devenu un peu l'ennemi numéro un. C'est très bien joué. Alors l'actrice, je me prépare, s'appelle Aldora Geira... Oulala.
Ça peut y arriver.
Geira...
Gerardsdóttir.
Oui, ça doit être ça.
Ça doit être ça. Et le deuxième?
Le deuxième acteur, alors, hein, ouais. Moi, ça, il s'appelle Johan Sigurdarson, voilà. Je suis désolé.
À la fin du podcast,
je ne te ferai pas tout le casting comme ça. Mais voilà, c'est une femme de quoi, fin de quarantaine, début de cinquantaine d'années, ouais, plutôt dans la cinquantaine, qui se rebelle un peu contre son gouvernement et contre un investisseur chinois en particulier, je pense, qui veut remettre les points sur les i.
Et l'église au milieu du village.
Voilà. Exactement. Et donc, elle sème un peu le chaos. Et c'est pour ça que le titre est « Femme en guerre hein, »,« Woman at war
».
Et c'était assez cool. C'est fait... Alors, là, en fait, ce qui est super bien dans le film, je trouve, c'est que la musique, elle est diégénique. Donc, c'est-à-dire que tu vois les musiciens jouer la musique du film dans le film.
Ah oui.
En fait, c'est un petit groupe de... Il y a quoi un accordéon, un mec qui a un tambour et je sais plus quel autre instrument. Et tu vois que les mecs jouent. Ils n'ont rien à faire dans l'histoire, tu vois, mais tu les vois, genre si c'est filmé sur la colline, bah, tu vois que sur le petit coin, ou en tout cas la caméra va arriver sur eux à un moment. Et ça, c'est cool, ça fonctionne super bien. Il y a un petit décalage à l'islandaise, comme ils ont souvent. Oui. J'aime beaucoup leur humour, et ça m'a aussi convaincu dans Woman at War, donc c'est un bon petit 3 étoiles.
Comment s'appellent ces deux frères qui faisaient des comédies là, avec Ben Stiller et tout, genre Marie à tout prix?
Les frères Larieux? Non.
Larieux
Non. Non, mais non, ça c'est les frères français. Les frères. Merde.
J'ai plus, hein. Mais eux aussi faisaient ça. Mais eux, ils faisaient ça aussi souvent. Tu sais, un groupe qui joue de la musique et tout, sur un arbre et tout, au début du film. Et puis t'as les
gars. Les frères Farrelly, tu veux
voilà,
dire.
Voilà, les frères Farrelly, eux, ils aiment bien aussi faire ça, des insertions de musiciens dans leurs films.
Ah oui.
À des moments mais un peu inattendus, c'est sympa.
J'ai vu le nouveau film d'un des deux.
Oui.
Green Book. Ça va cartonner aux Oscars.
Ah oui, c'est ça. C'est un des deux Farrelly, bah dis donc.
Ouais, ouais.
Bon, on continue. C'est pas du tout cette semaine-ci.
Non, il sort au mois de février, je crois.
Avec le programme Mary Shelley, un film avec Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge, un film britannique.
Ben, c'est sur l'auteur, l'autrice. Je ne sais jamais comment on doit dire. Il paraît qu'on doit dire autrice. Disons sur autrice, l'autrice hein. De Frankenstein, enfin de la créature du docteur Frankenstein. Et elle était mariée à un écrivain, poète, machin. Et forcément, au début, on a cru que c'était lui qui avait écrit Frankenstein, mais non, c'est pas lui. Et donc voilà.
Ok. Est-ce que du coup, ça en va?
C'est intéressant parce que je connaissais pas son histoire, mais d'accord. C'est un peu chiant.
D'accord. Une étoile, du coup.
Oui. Une étoile.
Mortal Engines.
C'est dommage parce que, petit commentaire, c'est réalisé par Haifa Al-Mansour qui avait fait le super beau Wajda sur une petite fille qui roulait à vélo en Arabie Saoudite. C'était un film fantastique qui avait été nommé aux Oscars. Mmh. Et ben voilà, suite à ça, elle a réalisé ce film. Et c'était pas terrible.
Non. Mortal Engines, on en a parlé. Un film de Christian Rivers, le petit protégé de Peter Jackson, avec 3 étoiles. Bon film pour les amateurs du genre. Un peu. C'était quoi le truc que t'avais dit? Post-punk, je sais pas quoi. Là.
Steampunk.
Steampunk. Et dernier film de la semaine, enfin, qui était le premier film de cette émission, c'est Pour vivre heureux. Film qu'on vous recommande, qui a le cachet cinéca cette semaine.
Ouais.
Du petit plaisir, du petit film
avec 3 bonnes étoiles aussi,
du petit film qui donc il y a 2 très bons choix pour vivre heureux, Mortal Engines, et le reste vous faites un peu
et Pupi,
oui, comme vous le sentez, hein. C'est il y a Pupi qui est bien aussi, il y a Astérix aussi qui est bien pour la famille, bref, on a fait le tour,
c'est plutôt une bonne semaine,
c'est une bonne semaine. Sur ce, on vous dit, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur iTunes, également sur Apple, Apple Podcast, forcément c'est iTunes, et Google Podcast, on est sur toutes les plateformes, vous tapez Cinécast.
Sur Deezer aussi, non?
Sur Deezer, sur tout ce que tu veux, tu t'abonnes, et comme ça tu seras au courant des prochaines sorties, et en une heure on fait le tour à chaque fois des sorties cinéma, c'est ça le principe.
On est sur Twitter, on est sur Facebook,
on est sur Twitter,
on est sur Facebook, Instagram,
on est partout. Donc merci beaucoup d'avoir écouté Cinécast, on se dit à la semaine prochaine.
Et à bientôt.
Des bisous.